France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La sororité est une protection précieuse. Au programme des carnets du jour, une application pour lancer l'alerte en cas de harcèlement, de violence ou de situation d'insécurité, quelle qu'elle soit. On peut télécharger cette appli pour appartenir à une communauté qui se serre les coudes. Elle s'appelle The Sorority. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Priscilla Routier-Triard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice de cette appli qui est gratuite. The Sorority est reconnue par le ministère de l'Intérieur et par la police nationale. Commençons par expliquer comment ça marche. Si je me sens en danger, dans le bus, dans la rue ou même chez moi, j'appuie sur le bouton d'alerte de l'application. Que se passe-t-il ensuite ?
Donc si vous êtes en situation d'insécurité dans la rue, dans les transports en commun, à l'école, à partir de 12 ans, en respectant la loi sur la majorité numérique, donc ça peut être des situations de harcèlement, de cyberharcèlement, de violence intrafamiliale. Ça peut également être au bureau, en soirée, en festival ou chez soi. Quand on appuie 2 secondes sur le bouton principal, donc c'est le bouton d'alerte, ça va calculer en temps réel notre position GPS et la position des 50 premières personnes autour de nous qui peuvent tout de suite se mobiliser, nous contacter sans jamais se mettre en danger. Donc elles peuvent nous appeler de façon discrète, ce qui permet de baisser la sidération et tout de suite mettre son cerveau sur une autre conversation et être en lien avec quelqu'un. Elles peuvent nous envoyer un message et nous proposer de contacter les autorités pour nous, ce qui est très efficace en situation de violence conjugale notamment.
Qui sont les membres qui sont géolocalisés autour ? Ce sont des gens qui se sont inscrits, bien sûr, sur l'application.
Exactement. Donc, c'est des personnes volontaires, tous les genres, femmes, personnes issues des minorités de genre. Et maintenant, on a également des hommes qui soit subissent des violences, soit qui souhaitent aider, mais qui rentrent via un accès parallèle, dédié et sécurisé. Les deux communautés ne se voient pas pour assurer la pleine sécurité des personnes et s'assurer qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur. Mais l'idée, ce n'est pas de séparer les genres, c'est vraiment d'unir toutes nos forces et d'avancer de façon sécurisée.
Voilà, la non-mixité est plutôt pensée comme un outil de protection au sein de votre application.
Exactement.
L'idée, c'est d'éviter que les conjoints violents se servent de The Sorority pour traquer une victime, c'est ça ?
Absolument. Le principe, c'est d'éviter vraiment toute double violence. Donc déjà, on a des niveaux de sécurité qui sont très élevés. Il y a un selfie en temps réel, pièce d'identité. On vérifie toutes les informations à la main depuis bientôt 7 ans. Donc on a déjà vérifié plus de 1 million de profils. On a eu plus d'un million de téléchargements. Et sur ces 1 million de téléchargements, aujourd'hui, on a quasiment 400 000 personnes au profil actif et vérifié qui s'entraident. Et je peux même vous dire que fin d'année dernière, on a été audité par la CNIL. Donc on a un niveau assez élevé et c'est vraiment notre priorité, c'est d'assurer cette pleine sécurité et d'éviter toute double violence. Mmh. Si on vient aider, c'est pas pour mettre en insécurité les personnes qu'on aide.
Total respect, bien sûr, du règlement général sur la protection des données, la RGPD.
Absolument.
Comment être sûr qu'un conjoint violent ne s'immisce pas dans l'application ?
Alors ça reste du traitement humain, donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué au monde. Mais pour rentrer, donc c'est selfie en temps réel, pièce d'identité, donc on s'assure que la personne qui tente de rentrer est bien celle qu'elle prétend être. Mmh. Et même quand on passe tous ces sas de sécurité, il y a une hyper-vigilance au sein de la communauté. Ce que je dis souvent, c'est si on veut faire quelque chose de malveillant, l'idée la plus débile de la Terre serait d'aller dans un commissariat, une gendarmerie. Bah, pour nous, c'est un petit peu la même chose parce que tous les regards sont braqués dessus. On ne peut pas supprimer les messages, on sait absolument tout ce qui se passe. Et en quelques secondes, s'il y avait un propos ou une action qui serait malveillante, qui serait détectée par notre communauté, tout de suite, ça nous est remonté. On a toutes les informations de la personne. On peut la bannir, récolter les infos et les donner directement aux autorités.
Votre communauté, vous le disiez, compte presque 400 000 personnes aujourd'hui. Est-ce qu'il en faudrait beaucoup plus, Priscilla ?
Alors le but, c'est pas d'atteindre des chiffres extraordinaires, c'est plus que les personnes qui sont présentes soient réellement impliquées et s'entraident. Et c'est le cas. Le but, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Notre force, c'est qu'on est aujourd'hui dans le monde entier. On est traduite en 19 langues. On est dans les grandes villes, mais aussi et surtout dans les zones rurales, où souvent l'isolement est imposé et les violences sont d'autant plus compliquées. On nous fait souvent penser qu'on est seul, que personne ne nous croira. Et c'est la grande force qu'on a, c'est qu'on rentre dans les foyers, on rentre partout et on rappelle aux personnes qu'elles ne sont pas seules. Et on redirige vers tous nos réseaux d'entraide. On a plus de 2000 associations dédiées à l'aide aux victimes qu'on a mis en avant, partout sur le territoire. On est notamment conventionné avec France Victimes, qui est un de nos principaux partenaires, que les personnes peuvent contacter au 116 006, je le rappelle. Mmh. Et l'idée, c'est que les personnes, si elles sont victimes, souvent elles ont beaucoup de choses déjà à gérer, mais on leur facilite ce travail de recherche en mettant directement en lumière les dispositifs qui existent auprès d'elles. Et également pour les proches qui souvent prennent une partie de cette violence et ne savent pas forcément comment réagir, peuvent voir où sont les associations, les professionnels autour, récupérer les infos, se faire eux-mêmes aider et pouvoir proposer à leurs proches qui sont victimes de violence de les accompagner pour se faire prendre en charge.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un exemple récent d'une alerte qui a été lancée sur votre appli pour qu'on prenne la mesure de l'aide apportée aux victimes ?
Alors, on en a beaucoup, on essaie de les partager au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux. Là, les derniers exemples qui me viennent en tête, c'est l'entraînement qu'on a fait ce week-end. Donc, on fait un entraînement un dimanche par mois entre 15h et 17h. Et on propose aux personnes de prendre en main l'application, de lancer l'alerte, donc d'appuyer sur le bouton et de voir en combien de secondes les premiers contacts sont faits. Ce qui permet de réduire la sidération, de réduire le stress qu'on connaît en tant que victime et témoin quand on fait face à une scène d'agression et développer de plus en plus et renforcer les réflexes d'entraide. Demander aux personnes ce qui se passe, où est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles souhaitent qu'on contacte pour elles les autorités. Et donc là, on a encore eu des super retours qu'on publiera, je pense, dans la semaine, de personnes qui disent qu'elles sont dans des zones rurales reculées, qu'elles n'auraient jamais pensé qu'il y aurait autant de personnes autour d'elles et qu'elles espèrent ne jamais avoir à utiliser l'application et qui sont hyper étonnées de voir en quelques secondes à quel point la solidarité se mobilise. Et on a aussi notamment des témoignages de femmes anciennes victimes de violences conjugales qui nous disent qu'elles auraient rêvé l'avoir à l'époque où elles vivaient ces situations et qu'elles sont rassurées et seront là pour les autres.
Voilà pour l'entraînement qui est évidemment très important hein, pour mobiliser la communauté. Est-ce que vous auriez aussi un exemple d'utilisation en cas de harcèlement, en cas d'insécurité, en cas de violence ?
Alors on a, pour vous donner les chiffres aussi, on a 700 à 800 alertes lancées par mois. 80% ça va être dans la rue, dans les transports en commun et le soir. Et c'est là on a énormément d'exemples de personnes qui se font soit agresser dans les transports en commun, soit se font suivre à la sortie des transports jusqu'à leur domicile. Ça peut être également dans l'espace public, on en a vraiment vraiment régulièrement. Ça peut être des simples regards, ça peut être des attouchements, ça peut être des prises de contact directes. Et là-dessus, elles sont très rassurées. On a une étude d'impact qui est sortie en 2025 qui montre de façon explicite, je dirais, que les personnes osent de nouveau ressortir tard le soir, reprendre les transports en commun et reprendre leur activité sportive, notamment le footing. On a énormément de retours sur ces activités-là où les personnes disent qu'elles reprennent confiance, elles voient qu'elles sont pas seules, elles voient que s'il se passe quoi que ce soit, elles auront tout de suite de l'aide. Et du coup, elles reprennent possession de l'espace public.
Les moyens d'apporter de l'aide sont très variés. Il faut peut-être insister là-dessus. Ça peut être soit une association, soit un coup de fil, soit un contact avec la police.
Exactement. Ce qu'on a réussi à recréer, c'est vraiment ce principe d'entraide citoyenne à très très grande échelle en intégrant tous les acteurs de la société civile. Donc on a l'entraide citoyenne, quasiment 400 000 personnes qui s'entraident partout et on fait de notre mieux. C'est OK de ne pas être OK, de ne pas avoir une alerte, de ne pas être disponible. Mais en moyenne, on a 10 à 15 prises de contact en une minute. Donc ça va vraiment très très vite. Et après, on fait le lien avec tous les autres acteurs. Donc on a plus de 2000 associations, comme on l'a dit, qui sont mises en avant avec le lien direct avec les professionnels. On est reconnu par les autorités. Donc, on a en France le ministère de l'Intérieur, on a l'égalité femmes-hommes, on a l'Europe et les affaires étrangères avec qui on travaille beaucoup pour les familles françaises établies hors de France qui vivent des violences conjugales intrafamiliales. Pour les personnes concernées, pareil, je les invite à découvrir. Sur notre site, ça s'appelle Save You, S-A-V-E, espace Y-O-U. On travaille à présent avec le ministère de la Justice et des armées et des anciens combattants. Et à cela, on rajoute d'autres acteurs qui sont très importants au quotidien, les collectivités qui se mobilisent de plus en plus à nos côtés pour sensibiliser leurs agents, leurs responsables associatifs, la police municipale, communiquer auprès des personnes et aller chercher ensemble des lieux sûrs. Donc ça peut être des pharmacies, des salons de coiffure, des salons de beauté, des cabinets médicaux qui voient qu'il se passe quelque chose mais qui ne savent pas forcément comment réagir et de façon simple qui peuvent sensibiliser et rediriger du coup, rediriger vers nous. Et nous, on redirige vers les professionnels de terrain.
Et là, on peut peut-être lancer un appel. Hein. Les lieux sûrs peuvent être enregistrés en permanence sur l'appli, par exemple une pharmacie,
absolument,
un cabinet médical, vous le disiez.
Absolument. On a un formulaire qui est dédié sur notre site. Quand la collectivité se mobilise, c'est le plus intéressant comme travail parce que du coup, on va vraiment unir nos forces avec les équipes de la ville. Il y a un vrai engagement concret de la ville et ça nous permet de vraiment densifier ces lieux sûrs sur le territoire, sur la ville et de montrer aussi que les acteurs de terrain qui peuvent être notre boulangerie de quartier, au-delà d'être notre boulangerie, en plus se mobiliser sur ce sujet qui est très spécifique. Donc ça permet de consolider vraiment le lien avec la population. Donc c'est hyper important et c'est un très beau message qu'on envoie. Et également avec des grands groupes. Donc je vous laisserai aussi regarder sur notre site. De plus en plus de grands groupes se mobilisent pour leurs salariés et pour leurs bénéficiaires directs.
Est-ce qu'on est géolocalisé en permanence à partir du moment où on télécharge votre application ?
Alors, très bonne question. Déjà, en précision, on n'est pas catégorisé comme personne victime ou personne aidante. À n'importe quel moment, on peut avoir différents rôles et l'idée, c'est d'être juste présente et de pouvoir se soutenir à tout moment. On a des exemples de personnes qui viennent pour aider et qui n'ont pas prévu d'être victimes à un moment dans leur vie et qui nous disent « mais j'aurais jamais imaginé en fait faire appel dans un premier lieu à la communauté pour moi-même, j'étais là pour aider ». Donc ça, déjà, je le rappelle. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, quoi qu'il arrive. Et par rapport à la géolocalisation, donc très important, on n'est jamais suivi en temps réel pour assurer notre sécurité. Sur l'application, il faut bien toujours activer la géolocalisation et ses notifications pour recevoir les alertes autour. Dès que vous fermez l'application, elle va rester active pour recevoir les alertes, mais elle ne va pas vous suivre en temps réel. Donc si vous faites un grand trajet, il est important de la rouvrir au moins une fois. Comme ça, elle gardera vos dernières positions GPS. Et cette dernière position GPS, c'est celle qui est utilisée pour calculer lors du lancement d'une alerte. Quand l'alerte est lancée, elle est lancée aux 50 premières personnes autour de soi et c'est cette dernière position qui est prise en compte. Donc pour vous répondre, pour assurer notre sécurité, on n'est jamais suivi en temps réel. Par contre, il faut bien toujours activer la géolocalisation, et les notifications. Et si on fait un grand trajet, juste rouvrir une fois l'application, comme ça on sait qu'on est à peu près dans ce périmètre pour recevoir l'alerte.
Et puis vous êtes aussi implanté à l'étranger, vous le disiez. Dans quel pays cette appli française existe-t-elle aujourd'hui ?
Dans le monde entier. Les pays les plus importants en ce moment, je vous dirais la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On a en Europe, vous pourrez vous balader sur la carte, mais on est présente vraiment partout, en Belgique, en Suisse, en Angleterre aussi de plus en plus, au Portugal, on a une très forte communauté, en Espagne. On fait également des opérations de sensibilisation dans des pays spécifiques. L'année dernière, on est parti en Colombie. Donc on continue, on plante des graines et on continue de sensibiliser, de rappeler aux personnes qu'elles ne sont pas seules et que si elles ont besoin, on est là.
Et comment est née cette idée au départ, Priscilla ? Quel a été le point de départ de tout ça ?
L'idée est née en 2019, où je ne faisais absolument pas partie de ce milieu. J'étais ancienne responsable RGPD, donc ça ne vient pas de nulle part, dans un grand groupe français. Et j'ai vécu mon second burn-out et je venais d'accoucher de mon deuxième petit garçon. Et à ce moment-là, j'étais prise en charge par ma médecin traitant qui m'a dit « je te crois et je suis là pour toi et tant que tu n'iras pas mieux, tu n'y retourneras pas ». Beaucoup de choses me sont remontées et notamment pas mal de situations qu'on traite au sein de The Sorority. J'ai plutôt une bonne vision des sujets qu'on englobe. Et je me suis dit « mais en fait, à partir du moment où on fait face à n'importe quelle situation de violence, d'isolement, de harcèlement ou de cyberharcèlement, juste savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a des mains tendues, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Et c'est parti de là.
Voilà, je rappelle que l'application est gratuite à télécharger. Un grand merci, Priscilla Routier-Triard, créatrice de The Sorority. Bonne journée.
Merci.
Et j'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Les Alpes de Haute-Provence sont à l'honneur cette semaine puisque le jeu des 1000 euros est à Volx, près de Manosque. Voici le message de Mélanie. « J'habite à Digne-les-Bains, jolie petite préfecture entourée de montagnes », écrit cette auditrice. « Et j'aimerais vous parler du club de rugby local qui existe depuis plus de 70 ans, je crois. Du rugby dans les Alpes du Sud, c'est plutôt étonnant. Qui plus est dans une petite ville », poursuit-elle. « Mais sachez que ce club est incroyable. » Il fédère beaucoup de monde autour de lui et son président, Jérémy Tessier, est un homme du cru au grand cœur, avec une âme d'aventurier et de pionnier. Parmi les actions emblématiques de son club, une section sport adapté pour les travailleurs de l'ESAT de la ville, une section sociale pour les jeunes des quartiers et les bénéficiaires du RSA, avec des projets et des résultats incroyables. Mais surtout, il a inventé en 2023, pendant la Coupe du Monde de rugby en France, la première Coupe du Monde de rugby des clubs amateurs. Et la petite ville de Digne et nos super joueurs qui sont maçons, éducateurs ou ouvriers la semaine ont donc représenté la France à Digne. On a perdu en quart de finale, comme les pros, et c'est aussi l'Afrique du Sud qui a gagné. Un AK à Digne-les-Bains, ça ne s'oublie pas, écrit encore cette auditrice. Alors ils veulent recommencer en 2027, hein, non pas en Australie mais en Afrique du Sud. Il y avait en 2023 20 nations représentées. Bref, poursuit Mélanie, cet homme et son club ont un peu de génie, beaucoup de cœur et des valeurs qui font du bien. Le mondial de rugby amateur créé par le président du RC Dinois. Et puis nous avons reçu un message de l'Archipel des Utopies, association basée à Grenoble, dont le but est d'aider financièrement d'autres assos qui ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer ou pour monter des projets généreux et inventifs, m'écrit Michel. Nous sommes une quinzaine à nous répartir les dossiers qui nous sont envoyés, poursuit-elle, et nous sélectionnons les projets pour leur attribuer une somme qui va de 500 à 10 000 euros. Cette année, nous avons retenu 62 projets pour un montant total de 180 000 euros. Nous privilégions, précise-t-elle, les projets porteurs de solidarité et de respect de la nature. Actuellement, nous constatons que c'est plus souvent par le bouche à oreille que notre asso est découverte. Aussi avons-nous besoin de votre émission pour nous faire connaître. Alors je relaie volontiers cet appel porté par l'Archipel des Utopies. Vous trouverez sur notre site un lien avec toutes les infos. Merci beaucoup à l'équipe des Carnets de Campagne. Sophie Hoffmann prépare cette émission avec l'aide de Jade Bellag. Achille Aknin était à la technique aujourd'hui.